Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode d'And You, How Did You Make It? Ok, on commence. Avant tout épisode, je vous ferai des résumés, des TLDR qui signifient too long, didn't read, genre c'est trop long, j'ai pas lu, bon ici j'ai pas écouté, ce qui vous permettra finalement d'avoir cet avant-goût sur les sujets abordés. Là, on a Yovana. Yovana est franco-serbe et nous transporte de la France au Japon avec à travers un parcours unique. Premièrement, grande passionnée de l'univers des mangas durant ses années collège, elle mentionne même Naruto, elle nous explique qu'elle a appris l'anglais armée d'un dictionnaire anglais-français, d'extensions Firefox et d'échanges avec des personnes en ligne. À l'ère de l'intelligence artificielle, vous avez techniquement aucune raison de pas apprendre l'anglais d'ici l'été prochain. Et attendez, 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 c'est pas fini. Grâce aux animés et l'écoute intensive, elle ajoutera le japonais. Vous m'avez bien entendu, le japonais, aux côtés des trois autres langues qu'elle comprenait et qu'elle parlait déjà. Le japonais, vous imaginez? On continue. Deuxièmement, elle nous parle de l'impact de ses amitiés sur la découverte de nouveaux centres d'intérêt. Absolument passionnant. Elle choisit un lycée avec une spécialité histoire de l'art. Vous saviez que ça existait? Parce que maintenant, oui, et c'est incroyable. Elle a vachement voyagé grâce à ça, elle a tellement appris, et surtout, elle a pu avoir des choix d'orientation assez uniques. Si ça, c'est pas royal. Troisièmement, en parlant de voie royale, ok, me fais le mot, mais on découvre son parcours qui passe de son expérience à l'école du Louvre. Ok, j'avais promis de ne pas mentionner d'école, mais ici on apprend pourquoi cette voie ne lui correspondait pas. Car malgré son intérêt et passion pour l'art, la structure et les requis des cours ne lui correspondaient tout simplement pas. Bon, suivez cet épisode pour découvrir son expérience. Ok. Donc, Yovana s'est tournée vers une licence d'histoire au sein d'une université parisienne qui, quant à elle, a coché toutes les cases qu'elle recherchait. Et lui a permis de construire son parcours qu'elle souhaitait. Elle a fini aussi par faire un magistère ultra sélectif, programme sur 3 ans, qui lui ouvre les portes des relations internationales. Aujourd'hui, elle est consultante en développement durable, avec un cœur de diplomate. C'est quoi le développement durable? Il y a mille et une ressources en ligne, vous pouvez commencer par les sites des Nations Unies, de l'UNICEF, qui partagent en détail tout ce que vous devez savoir. Faites des recherches. Tout ce qu'on mentionne invite à la recherche. Posez-vous, écoutez, écrivez, prenez des notes, faites ce qu'il faut, ce qui fonctionne pour vous, mais faites des recherches. Ok, donc la grosse conclusion, la phrase qui marquera cet échange selon moi, c'est allez dans un endroit où vous êtes célébré plutôt que dans un endroit où vous êtes toléré. En d'autres termes, vous devez vous sentir bien là où vous êtes. N'oubliez pas que vous passerez autant de temps au travail que vous passez de temps actuellement au collège, au lycée, à l'université. Pour avoir le choix du lieu où vous serez, on se retrouve autour de l'éducation. Bon épisode à toutes et à tous. Hello Yovana et bienvenue sur A New How Did You Make It. Je suis si contente de t'avoir sur l'épisode, sur le podcast. Nos chemins se sont croisés durant nos études universitaires et se sont croisés de nouveau plus tard. Et admirative de ton parcours et de tes nombreux accomplissements, j'ai si hâte de partager cela avec les personnes qui nous écoutent. Donc sans plus attendre, je te laisse te présenter.
Bonjour Yosra, merci de m'inviter. Moi, je suis Yovana, du coup, j'ai 29 ans. Je suis franco-serbe d'origine. Enfin, mes deux parents sont serbes et j'ai toujours grandi en France. J'ai eu la chance de vivre en France, en Serbie et au Japon. Actuellement, j'habite à Paris. Donc, ravie de te rejoindre.
Merci beaucoup, Yovana. On va commencer par la première question à laquelle je pense qu'on va rebondir sur tes années à l'étranger, bien évidemment. Mais la première question, c'est peux-tu nous définir le succès? Ou du moins ta vision du succès?
Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Parce que c'est très difficile de ne pas se comparer, d'essayer de se dire je vais faire quelque chose, d'être ambitieux et de se dire où fixer la limite. Enfin, la comparaison est un peu toxique dans ce sens-là, parce que chacun a ses forces et ses qualités, et on ne peut pas forcément tout mettre dans un même panier. Je me rappelle le lycée, j'avais des copines qui étaient hyper fortes, elles avaient toujours des super bonnes notes, et moi, je n'étais pas une mauvaise élève, hein. Je le savais, j'avais plutôt 14, 15 de moyenne, donc c'était plutôt bien, mais j'arrivais pas à passer ce palier, on va dire, de 18, de 19, voilà. Je me rappelle très bien que j'avais été hyper grisée quand une de mes profs avait présenté au concours général plusieurs personnes parce que elles étaient très bonnes et qu'elle voulait donc le faire. Moi, je savais même pas ce que c'était le concours général à l'époque, hein. Mais je sais que j'étais piquée dans mon ego à tout point de vue, puisque en tout cas, je n'arrivais pas à passer cette barre du succès tel que au lycée on aurait pu l'imaginer. Donc c'est un peu long comme réponse, puisque
Non, non, je sens.
le succès n'est en tout cas, j'ai pas réussi à trouver peut-être une définition qui me correspond, j'ai plutôt travaillé, on va dire, par la négative. Donc, le succès pour moi n'est pas de se comparer aux autres, le succès pour moi n'est pas de faire la course au matérialisme et à l'accumulation de richesses qui serait au détriment de la nature. Le succès pour moi, c'est aussi d'être conscient de son entourage et donc aussi bien de son environnement que des gens autour de soi, et on ne peut pas le faire au détriment des autres. Donc dans mon cas, ça a par exemple pu prendre la forme de quand j'étais au lycée. J'ai voulu m'inscrire à l'école du Louvre parce que mes copines avaient fait ça. J'avais eu le concours, donc un petit peu ça a flatté mon ego. J'aimais bien l'histoire de l'art, j'aimais même beaucoup ça, mais ce n'était pas forcément ma vocation à moi. En tout cas, je m'y étais pas plus penchée que ça. Et ce que je m'imaginais quand je m'inscrivais à l'école du Louvre, c'était je fais mes études à l'école du Louvre et après je vais travailler à l'UNESCO parce que je veux travailler dans quelque chose d'international. La diplomatie culturelle, ce sera top. Je serai une experte S histoire de l'art et patrimoine culturel à l'UNESCO, mais avec aucune forme de comment dire, je n'ai jamais ré réussi à me dire, tiens, ce sera mon expertise, tel domaine, esthétique, historique, machin. Finalement, je me suis assez vite rendu compte que dans l'histoire de l'art, ce qui me plaisait, c'était plutôt les gens, l'histoire des gens, la politique, la sociologie, et pas du tout ce que je m'imaginais. Et d'ailleurs, l'école du Louvre ne proposait pas du tout quelque chose qui s'alignait sur mon ambition, même si je le pensais. Et du coup, finalement, je me suis tournée vers une licence d'histoire qui était dans une université. Je m'étais inscrite en parallèle de l'école du Louvre. C'était une façon d'avoir des crédits en garantie si jamais ça ne marchait pas, ou
Ouais.
pour une X ou Y raison, obtenir une équivalence en université. Et j'avais fait quelques cours. Et ces cours-là m'avaient remplie de joie. C'était fou. Et en fait, ce moment-là, je me suis rendu compte que à l'école du Louvre, j'étais dans une forme de marasme, incapable de bouger, de faire quoi que ce soit, dans le sens où je me suis retrouvée, par exemple, avec 0,25 dans un de mes examens parce que c'était sur du paléo-chrétien et je comprenais même pas ce qu'il fallait étudier. Tu avais une photo d'église, alors tu avais un bout de fresque en ruine dans un coin gauche, un espèce d'hôtel qui était en fait comment ça s'appelle, c'est pas un cercueil, mais globalement l'équivalent au milieu en pierre, et t'étais censé étudier l'iconographie de ça. Et donc moi, je savais même pas laquelle des deux était l'œuvre que j'étais censée étudier. Donc je me suis retrouvée avec une vraiment mauvaise note. Et je me rappelle, je portais tout le temps mes livres hyper lourds avec moi, dans l'espoir que en les ayant comme ça proche de moi, ça marcherait. Mais j'avais jamais envie de les lire. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite à la fac en histoire. Je me suis rendu compte que ça me passionnait, que j'aimais ça. Et très rapidement, en fait, tout est rentré naturellement dans l'ordre. J'ai eu des bonnes notes. J'étais passionnée par ce que je lisais. Tout le monde disait, mais à la fac,
personne pour te guider, c'est super compliqué après le lycée, etc. Mais moi, c'était tout l'inverse. À l'école du Louvre, la moitié des gens avaient déjà fait des études post-bac et c'était plutôt la minorité qui avait fait directement une entrée après le bac. Moi, j'étais perdue. Le premier jour, ils nous avaient distribué une bibliographie de 6 pages pour un cours.
Wow.
C'était une bibliographie sur la préhistoire. Moi, je savais même pas ce que c'était la préhistoire, globalement, à ce moment-là. Et tu avais tout un tas de manuels, de livres conseillés. Mais moi, je savais même pas quoi en faire. Par contre, à l'école, à l'université, là, mes profs te disaient, prenez le chapitre un tel et un tel de ce bouquin, lisez-les, surlignez-les, et on va faire une interro. Et étonnamment, ça marchait beaucoup mieux que on te donne une bibliographie de 6 pages pour un cours et t'en as 50 autres comme ça, et des examens à la fin de l'année. Et donc, moi, je me suis sentie vraiment comme un poisson dans l'eau. Et là, ça a marché. Et donc, mon succès est aussi venu de se sentir bien. Un de mes amis s'est récemment marié et une des phrases qui a été redite et que je trouve très belle, c'est aller dans des endroits où vous êtes célébré plutôt que des endroits où vous êtes toléré. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et c'était top. Et du coup, si maintenant je devais te dire qu'est-ce que ma vision du succès, c'est en gros être enthousiaste à chaque jour et de pouvoir me dire je suis contente de faire ce que je fais. Et je ne voudrais pas être ailleurs. Et bien sûr, j'ai envie de pouvoir toujours faire plus. Ça, c'est un biais à moi. Et c'est ma capacité d'agir est aussi quelque chose qui détermine comment je me sens. Mais finalement, j'ai pas envie d'agir juste pour agir. J'ai envie d'agir au quotidien avec des gens avec qui je me sens bien, que je trouve stimulant et qui me permettent de me renvoyer vers une image la meilleure de moi-même. Et c'est très agréable en fait d'avoir l'impression d'être parmi des gens qui sont heureux d'être avec nous et avec qui on est heureux et admiratif d'être à leur côté également. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est ça le succès.
Merci beaucoup Yovana, j'aime beaucoup ta réponse, qui dévoile également des nombreux conseils pour les personnes qui nous écoutent. J'espère que vous avez pris des notes ou réécoutez et reprenez des notes. Si je peux me permettre, le succès serait selon toi de choisir ce qu'une personne souhaite faire de sa vie, en accord avec l'ensemble des valeurs qu'elle a, dans un environnement stimulant et qui respecte cette même personne. Je trouve ça génial. Je trouve ça très important également. Ton parcours n'a pas été une ligne droite et on reparlera de tes ambitions et tes valeurs un peu plus tard. Je souhaiterais qu'on reparte sur tes années collège, ce que tu faisais après l'école. Est-ce que tu travaillais dur pour obtenir ce 14-15? Dis-nous tout.
Moi, dans ma vie, j'ai sauté une classe. J'étais en CE1, j'ai sauté une classe. Je me rappelle, en CP, j'étais avec une maîtresse très gentille qui m'accompagnait beaucoup. J'ai lu assez rapidement, mais elle ne voulait pas me faire sauter de classe. Et j'arrive en CE1 et j'ai mes copains, je les aime beaucoup, etc. Mais je m'ennuie, mais je m'ennuie. Et une fois, ça a pris la forme. On notait les devoirs dans le carnet de texte à l'époque. Et j'avais pris mon stylo et mon crayon et j'avais écrit en grosses lettres, hyper frustrée en fait, d'écrire des choses que je savais déjà faire et qui ne m'apportaient rien. Et je savais pas quoi faire. Et ma maîtresse à l'époque avait rapidement proposé à ma mère de faire. Non, je crois que d'abord elle m'a parlé à moi. Est-ce que tu veux sauter une classe? Je sais pas ce que c'était sauter une classe. Je savais pas qu'on pouvait sauter des classes. Mais que ce soit avec pour mes copains ou pas mes copains, mais j'ai dit oui, mais à une vitesse. Voilà, j'ai pas laissé le temps au doute. Après, ma mère, tu vois, ah bah oui, si Yovena a envie de faire ça, pas de souci. Elle était touchée. On en rigole aussi beaucoup parce qu'il y avait deux maîtresses dans cette classe-là. Une qui était hyper gentille, que j'aimais bien, etc. Et l'autre qui était hyper sévère et que je trouvais un peu plus dure. Et il s'avère que la personne qui était plus sévère, plus dure, c'est elle qui a remarqué que je ne me plaisais pas, hein, dans ma classe et qui a proposé le saut de classe et qui, au contraire, a été très bienveillante avec moi. Donc, il faut pas forcément se fier aussi non plus aux apparences des gens. Des fois, quelqu'un ou un prof qui est sévère peut être beaucoup plus bienveillant que quelqu'un qui va aller dans le sens du poil avec vous. Ça, c'est une petite leçon que j'ai appris très très tôt. Mais donc, pourquoi je reviens aussi loin en arrière? C'est parce que, du coup, j'ai fait, par exemple, j'ai appris à soustraire des chiffres directement dans les examens de passage de classe. Je n'ai jamais eu de cours pour me faire faire les soustractions. Et en CE1, je crois que c'était le moment où on apprenait aussi à faire les multiplications. J'ai tout appris sur le tas. Et donc, moi, en rétrospective, je me dis que, par exemple, une faiblesse que j'ai eue en maths vient aussi du fait que je n'avais pas forcément les bases aussi rapidement que d'autres personnes. J'ai jamais été très forte en calcul mental, j'ai jamais cherché non plus à développer ça. J'ai pas forcément eu des profs qui ont été très pédagogues et qui m'ont permis de rattraper ça, notamment au collège. Et je me rappelle qu'à mon brevet, donc j'ai eu une note très très mauvaise. C'était noté sur 40. Et je crois que j'ai eu 14 sur 40. Et pourtant, ma mère avait essayé de demander à son pote, tu peux pas lui faire faire des exercices, etc. Mais j'avais un blocage, je voulais pas faire de maths à ce moment-là et c'était terrible. Donc, l'examen ou pas l'examen, la pression, moi, je l'ai esquivé et je me suis bloquée, j'ai pas voulu faire ça. Donc, ça, par exemple, tu vois, c'était des notes qui n'étaient pas forcément excellentes, même si pendant l'année, je maintenais quand même, je sais pas, un truc pas très bon, mais je le maintenais. Par contre, j'avais des bonnes notes dans les matières littéraires, dans... enfin, j'aimais bien ça, mais j'arrivais pas à dépasser forcément des trucs pour avoir des excellentes notes, comme je disais tout à l'heure. Et pourquoi je reviens à la fois sur le passé et sur les maths, c'est que finalement, au collège, ça a été une période où en fait, je n'ai pas eu spécialement à travailler moi. Enfin, malgré le fait que sur les maths, j'aurais peut-être dû, je l'ai pas fait. J'ai un peu suivi une esquive. Et par contre, j'ai eu des facilités dans les choses que j'aimais, puisque j'avais pas l'impression de travailler quand, je sais pas, pour une raison X ou Y, on faisait un examen. Ça, c'était assez facile. J'étais curieuse des cours, j'ai beaucoup aimé apprendre, mais je n'ai jamais travaillé de mon côté. Et ça a été très difficile par la suite, on va dire, parce que j'étais convaincue que ben, j'avais des capacités, que je savais faire des choses, que je comprenais rapidement, que j'étais intéressée, mais pourtant, j'arrivais pas à le valoriser, on va dire, dans la grille de l'éducation nationale par les notes que mon ego aurait voulu que j'aie, puisque finalement, j'avais beau être forte, il me donnait pas de 18, quoi. Mais je n'arrivais pas à identifier que ça aurait pu être compensé par le travail. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Et puis, je n'avais pas envie. Moi, tu sais, tu me demandais qu'est-ce que je faisais après le collège. Ah, moi, j'ai lu des mangas. Ah, j'ai lu des mangas, j'en ai lu, mais j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu. J'ai regardé des animés, j'ai lu des mangas. J'ai développé, enfin, je disais les matières littéraires et les langues, je les ai développées au collège, j'étais bonne. Mais c'est parce que, notamment, au collège, je lisais beaucoup de mangas en anglais. Et donc, c'était top de pouvoir. Donc, j'avais une copine qui m'avait introduit à l'univers des mangas en me prêtant ses Naruto à l'époque. C'était top. On échangeait et tout. Et puis, à un moment, c'était pas assez. Je voulais plus. C'était trop bien, cet univers-là. Et j'avais une copine qui était franco-américaine. Et elle regardait ça sur des sites de scan de mangas. Donc, c'était des équipes qui scannaient les pages des mangas japonais, les traduisaient et les publiaient en ligne. Et donc, moi, au début, j'avais essayé de regarder un manga en français, mais je me retrouve au milieu de la série, plus de chapitres. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et bien, Yovana, un peu débrouillarde, se dit, bah, elle a tout lu. Si elle a tout lu, ça veut dire que ça existe quelque part. Donc, je me suis connectée à son site et j'ai lu en anglais. Alors, lire en anglais quand tu n'es, sais pas forcément parler en anglais et que tu as eu ton premier cours d'anglais en sixième. Qu'est-ce que ça voulait dire? Eh ben, ça voulait dire que j'avais un onglet dictionnaire ouvert à côté. J'avais installé, il y avait à l'époque une extension sur Firefox qui permettait, quand tu passais au-dessus d'un mot, d'avoir directement la traduction. Et grâce à ces deux petits outils, bah, j'ai fini c'était Death Note à l'époque, la série, et j'ai réussi à la finir. Je me rappelle encore qu'à un moment, j'avais la flemme d'aller chercher tous les mots, mais il y avait un mot que j'avais buté. Je me rappelle que c'était garbage, qui veut dire donc les déchets, et je ne savais pas comment aller le rechercher, enfin, etc. Du coup, j'étais là en mode, oh, mais c'est super intéressant et tout, mais j'ai l'impression que c'est un mot-clé là, il faut vraiment que j'aille. Dans mon autre onglet, aller chercher la définition, etc. Et donc, j'ai fait ça beaucoup pendant mon collège et ça a développé chez moi donc mon anglais et je l'ai appris purement par l'écrit et pas du tout par l'oral. Donc en fait, à l'époque au collège, j'avais mes camarades de classe qui avaient tendance à se moquer de moi, notamment quand en quatrième, troisième, j'avais commencé à vraiment développer mon anglais bien mieux, parce que mon accent, il était otherworldly, d'un autre monde, quoi. Ça n'avait rien à voir avec, on va dire, un accent ni français, ni anglais, vraiment, parce que j'imaginais les mots et je les disais comme je pensais. Et donc, par exemple, le the spécifique, là, en anglais, eh ben, je le disais plutôt comme un te. Et du coup, ça faisait très, très dur en comparaison, ou des choses comme ça. Mais bon, en soi, je parlais bien anglais, les gens me comprenaient, il n'y avait pas de souci en comparaison à mes camarades, j'avais clairement des meilleures notes. Et aussi, enfin, pour juste parvenir comment j'ai fini ça, j'ai aussi beaucoup chatté sur les forums de manga. Et du coup, en fait, tu avais une librairie online sur laquelle tu pouvais mettre tout ce que tu avais lu ou regardé comme animé. Et après, on discutait. Il y avait des groupes online ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de commentaires, de reviews, de relectures, de trucs comme ça. À un moment, je m'étais dit, ouais, mais peut-être que je vais prendre un peu de temps et je vais aussi m'investir dans une team de scan et traduire des trucs et tout. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, mais par contre, ça m'a permis à la fois d'écrire, de lire et de traduire beaucoup de choses et de développer un vocabulaire qui est fou. Bah, j'avais quand même 3 mois d'écoute comme si j'avais non-stop eu quelqu'un qui m'avait parlé japonais quand même, tu vois?
Non, mais c'est génial.
Voilà. Et donc, à tous les gens qui sont des détracteurs de situations comme ça, j'ai envie de leur dire, mais les gars, vous savez pas ce qu'il y a dans les mangas. Il y a des mangas sur tout. Il y a des mangas très, très riches. Et honnêtement, contrairement à un livre, on les dévore beaucoup plus, on s'arrête pas. Et on peut, certes, peut-être lire moins de mots à la minute qu'un roman très serré. Mais ça a son charme. Et bon, peut-être si on les lit en français, c'est moins, ça développe moins de choses, mais moi, ça m'a développé mon anglais. Et les animés ont développé mon japonais. Et ça, c'était top. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie au collège à faire ça. Et qu'est-ce que j'ai kiffé ça!
Merci beaucoup, Yovana, pour ces explications. C'est incroyablement génial de voir que tu as pu allier passion et tes ambitions d'apprendre davantage sur différentes cultures. On en reparlera un peu plus tard quand tu nous parleras de tes expériences à l'étranger, mais aussi dans des milieux anglophones.
On pourrait maintenant peut-être en apprendre davantage sur tes années de lycée, tes amitiés, ce qui t'a poussé vers l'art et pourquoi pas des expériences professionnelles durant ces années-là.
Je suis rentrée au lycée. Déjà, bah, ça nous amène sur une grande transition pour moi. C'est que au lycée, j'ai trouvé des gens, enfin, avec lesquels j'avais des fortes accroches. On était dans une classe qui était dédiée à l'histoire de l'art à l'époque. Enfin, j'avais pris un lycée qui avait l'option histoire de l'art. Pour moi, c'était important à l'époque. C'était une époque où j'avais envie de faire des trucs artistiques. Donc, au début, je pensais que je voulais faire architecte. Puis, j'ai fait un stage dans un cabinet d'architecture en troisième en observation et je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi. Puis, donc, je me suis dit, peut-être que je vais faire du dessin, parce que le dessin est venu de ma pote franco-américaine, là, qui avait tout le temps un crayon à la main et qui dessinait super bien, et je voulais faire tout comme elle. Donc, je la copiais, je prenais les crayons et je dessinais, et je faisais plein de trucs. J'avais commencé à faire des cours d'art et tout. Je me suis un peu monté le chou, genre, je serais artiste et tout. Je pense que je n'avais pas forcément le talent pour faire ça, et puis je m'en suis assez rapidement rendu compte. Et par contre, je voulais quand même faire un truc un peu artistique, ça me paraissait intéressant et passionnant. Et donc, je suis allée dans ce lycée-là qui avait cette option histoire de l'art. Il n'était pas très loin de chez moi, il n'était pas très loin de mon collège non plus, mais ça a fait un monde de différence. Autant quand je te disais au collège, j'avais pas cette sensation de me retrouver avec des gens que j'aime vraiment fort ou avec lesquels j'ai des liens d'amitié fortes, autant le lycée, c'est des gens, enfin, que j'ai rencontrés au lycée, c'est des gens avec qui j'ai encore des liens. Enfin, aujourd'hui, j'ai été témoin au mariage de ma meilleure amie que j'ai rencontrée au lycée. J'ai créé des relations avec des gens hyper fortes. J'ai retrouvé notamment une de mes amies d'enfance qui avait fait l'école primaire avec moi dans le même lycée. On n'était pas dans la même classe. Si, on était dans la même classe en seconde d'ailleurs. Et c'était top. Je me suis amusée comme une folle avec elle. Après, je sais plus si c'était en seconde ou même peut-être des. Enfin, Je crois que je me suis rapprochée de certaines personnes en seconde et après en première, vraiment, ça a été un peu une révélation. Je suis devenue hyper pote avec trois filles qui étaient dans ma classe et on était inséparables, etc. Et ça m'a ouvert de nouveaux horizons. Et l'une d'elles avait notamment cette sensibilité littéraire, et enfin, franchement, une sensibilité dans toutes les matières, elle était trop forte. Pour la littérature, pour la, enfin, elle écrivait des romans déjà dans son temps libre, des nouvelles. Elle avait gagné des prix de romans, enfin, ou de nouvelles, je sais plus, de jeunes lycéens, des trucs comme ça. Enfin, top top, quoi. C'était fou. Il y avait une forme d'émulation aussi, hein. Franchement, là, de tout ce que je te dis, c'est très important, enfin, de kiffer des choses avec ses amis, parce que ça nous oblige à, enfin, à trouver des nouveaux centres d'intérêt. Et en fait, on les découvre et on les apprécie aussi grâce aux personnes avec qui on est ensemble, tu vois. Donc, moi, clairement, entre cette copine-là, une autre copine qui aimait bien tout ce qui était littéraire, mais aussi cinéma et tout ça, on avait créé un film. Quand on était ensemble, enfin, on avait eu l'ambition de faire un film, etc. Bon, moi, à l'époque, tu sais, avec mon côté un petit peu arty, j'avais ma caméra, enfin, mon appareil photo et tout, donc j'étais là en mode, bon, bah, il peut faire aussi des vidéos. Je sais pas trop comment on filme un film, mais sur un malentendu, je pourrais faire des prises de vue. Enfin, je sais pas, en fait, on s'est retrouvés comme ça dans une forme d'émulation de plein de trucs et la littérature était là et j'avais des super profs à cette époque-là parce que honnêtement, enfin, en vrai, c'était plutôt en première, je me rappelle que c'était le plus déterminant, c'était l'année du bac de français aussi, mais c'était aussi une de mes profs, mais elle était incroyable, cette femme, hyper stricte, elle me mettait pas des bonnes notes à moi, je me sentais à la traîne, etc. Mais globalement, elle m'a fait découvrir des livres qui sont incroyables. Elle m'a forcé, par exemple, une des lectures qu'on avait dû faire pour la classe, c'était Zola, la curée. C'est un livre, je pense que je n'aurais pas touché toute seule à l'époque, et j'aurais pas su que j'aime particulièrement la littérature réaliste et naturaliste du 19e siècle si je m'étais pas jetée dedans. Et c'est un peu un côté un peu pédant aussi qui est ressorti de là, mais parce que c'est vraiment, en gros, la culture a pris une place hyper importante dans ma vie, et la littérature venait aussi. Se greffer donc dans ce truc-là, ces formes-là, et j'ai couru. Je crois que j'ai vu mon premier ballet aussi à cette époque-là en seconde avec l'option histoire de l'art. Et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais lâché. Aujourd'hui, j'adore aller à l'opéra, regarder des ballets. La danse, c'est quelque chose qui me construit beaucoup, mais bon, je l'ai d'abord regardé avant d'en faire. Et c'est vraiment beaucoup lié à cette option-là, c'est beaucoup lié à ces gens-là, à la découverte de nouveaux hobbies. Franchement, on s'est pris très au sérieux, mais c'était tellement fun. Honnêtement, c'était une partie de ma vie. Je pense que je peux qualifier d'une des meilleures parties de ma vie. Franchement, j'étais entièrement remplie parce que toute ma curiosité que je pouvais avoir et qui n'était pas satisfaite avec les gens qui étaient autour de moi quand j'étais au collège. Là, j'étais avec des gens qui avaient cette même recherche un peu intellectuelle, cette stimulation qu'on pouvait avoir et qu'on faisait. Et puis après, du coup, il y avait cet esprit un peu de compétition qui rentrait en moi parce que j'étais là en mode, mais je suis pas pire que les autres. Pourquoi moi, j'ai pas les compliments de la prof qui dit que j'ai un style et une plume particulièrement belle et tout? Bon, j'ai jamais su avoir les compliments de qui que ce soit pour mon style littéraire. Quoi que je dis ça, mais récemment, quand j'ai écrit un article pour le boulot, on m'a dit « Ah, tu écris très bien, c'est fluide, etc. » Donc en fait, finalement, c'était aussi dans notre petite bulle que je n'avais pas ces compliments-là, mais finalement, quand on en sort, c'était pas si mauvais que ça. Et pourquoi je te parle de ça pour la lecture? Parce que, en fait, je sais pas si je pourrais te dire que la lecture, ça a une place particulière dans ma vie, dans le sens où est-ce que je prends ce temps autant qu'il faudrait pour m'asseoir et lire des livres? Probablement pas autant qu'il faudrait ou par rapport au nombre de livres que je possède et que j'aimerais bien lire. J'ai passé beaucoup moins de temps à les lire qu'à les acheter. Donc j'ai énormément de livres, mais j'ai pas forcément pris le temps de tous les lire. Mais en général, quand je commence un livre, après je le lâche pas. Enfin, après il y a plein de livres que j'ai adorés. J'ai découvert aussi, je crois, la littérature japonaise au lycée. parce que ça, c'était pas le lycée qui me l'avait proposé, mais c'est simplement que en me baladant dans les rayons de la Fnac, un de mes hobbies préférés aussi, franchement, j'adore acheter des livres. Et en fait, on allait au Virgin Megastore et on s'asseyait sur le sol pour lire des mangas à l'époque dans le magasin en lui-même. On traînait comme ça pendant des heures. Ça, on l'avait fait aussi dans la Fnac, etc. C'était un truc qu'on faisait au collège. Je crois que ça s'est un petit peu perdu parce que l'accès aux mangas est devenu plus facile. Mais on a passé beaucoup de temps à faire ça. Bref, mais du coup, me balader dans les papeteries, dans les librairies et dans les magasins de mangas, c'était un truc top. Et du coup, j'avais acheté des livres, notamment de Yukio Mishima. J'avais acheté des livres. Est-ce qu'il y en avait d'autres à ce moment-là? Mais je me rappelle que j'avais en été pris Les Amours interdites de Yukio Mishima comme livre de plage et je l'ai dévoré. Enfin, j'étais là en mode, mais c'est cynique, c'est poignant. On était aussi à la recherche de cet esthétisme, de cet esprit littéraire, de rechercher à exprimer des émotions un petit peu aussi comme ça. Et on a fait beaucoup de voyages scolaires quand j'étais en histoire de l'art, enfin avec mon option histoire de l'art au lycée. Donc on a fait des trucs mais tellement cool. Enfin ça, je pense que c'est des trucs qui m'ont beaucoup beaucoup construit aussi. C'est que j'ai jamais fait de voyage au collège, mais par contre j'en ai fait 3, 4 au lycée. Il s'avère qu'on avait fait en seconde un voyage à Rome. Et du coup, là, j'étais beaucoup plus avec mes copains. Et on s'est tellement bien amusés. Enfin, franchement, c'était cool. On avait 5 jours de voyage scolaire et on a traversé Rome en long, en large, en travers pour voir les églises, pour voir les différents musées. On a fait le Vatican, on a fait tout. Et nos profs nous faisaient les visites guidées. Donc, en fait, tu apprenais tellement de choses chaque jour dans ce voyage-là. Moi, ça m'a construit ma culture générale, hein. Je pense que c'est fortement lié et je retiens encore Rome comme une de mes villes favorites grâce à cette découverte à travers mon voyage scolaire. Et quand j'ai eu l'occasion de travailler avec la FAO, on s'est recroisés à ce moment-là d'ailleurs, j'étais ravie qu'il y ait ce tropisme romain et italien parce que, enfin, pour rien au monde, je n'aurais raté l'occasion de retourner à Rome encore une fois. C'était, enfin, franchement, c'est une ville qui m'a émerveillée, qui associé à tellement de bons souvenirs aussi. Ensuite, on a été dans les années juste après, on a fait un voyage en Belgique. Enfin, on avait pris le car, on était remonté par Villeneuve-d'Ascq, par Lille, et on était remonté un petit peu jusqu'à Bruxelles et après redescendu. On avait fait pas mal de musées là, c'était plus de l'art nouveau, de contemporain, etc. J'adore l'art nouveau aussi, et le fait d'avoir pu le voir en vrai, commenter, etc., ça a beaucoup aidé. Enfin, on a regardé tellement d'architecture, de trucs comme ça là-bas, c'était vraiment incroyable. Et on s'est bien amusé, même si là, les auberges de jeunesse étaient beaucoup moins sympathiques et que c'était plus glauque par moment. C'était plus court aussi comme voyage, mais c'était sympa. Après, on a été, je sais plus si c'est en première, je crois justement qu'on avait tout de suite enchaîné quasiment, ou si c'était en l'année, mais avec un voyage en Angleterre, à Londres. Du coup, et la journée, on faisait les vadrouilles, on a explorer plein de trucs. On a fait les musées, la Tate Gallery, la National Gallery, on a fait plein de trucs. Enfin, c'était top. Et on était parti après à Berlin. C'était mon dernier voyage scolaire. Alors là, sur une période historique que j'aimais moins bien et sur une période aussi architecturale, enfin, pas forcément, non, artistique, moins fun aussi pour moi, beaucoup plus contemporaine, mais qui a été aussi riche en apprentissage. Pour moi, c'est des années extrêmement constructives dans le sens de mon identité, dans le sens des hobbies aussi que j'ai pu développer et dans le sens de la culture générale que j'ai pu faire, découvrir aussi plein de choses que j'ignorais, ce que c'était Sciences Po, ce que c'était l'école du Louvre. Honnêtement, tu sais comment moi j'ai choisi mon université?
Moi.
Ouais, j'ai mis histoire dans les trucs d'université. Je savais déjà que j'étais prise à l'école du Louvre. Et comme je ne savais pas exactement quelle était la différence entre les différentes universités d'histoire, je les ai classées. Enfin, j'hésitais entre Paris 1 et Paris 4 pour les deux. Et je me suis dit que Paris 1 était mieux que Paris 4 parce que 1, c'est plus sympa que 4. C'est un chiffre que je préfère. Donc, tu vois, moi, ma connaissance du milieu de l'éducation supérieure était très limitée. Ma mère ne connaissait pas ce système non plus. Et donc, c'est beaucoup aussi grâce à mes copains-copines que j'ai su ce qu'il pouvait y avoir comme débouché. Mais bon, après, il s'avère que c'était une bonne loterie et que j'ai passé des années absolument formidables.
Encore merci, Giovanna. Il y a tellement d'éléments à couvrir. Les choses se goupillent bien pour toi et c'est très joli à voir. Et surtout, la rencontre de nouvelles personnes qui te ressemblent. Je vais essayer de résumer un peu cet échange en trois parties. Premièrement, l'importance de cette filière qui t'a non seulement permis de te développer, de développer de nouvelles connaissances, ta culture générale, mais humainement qui t'a permis de construire des amitiés fortes et comme tu nous l'as dit, ce qui a été une des meilleures parties de ta vie. Et deuxièmement, si vous n'avez pas cette chance de reconnaissance par vos profs durant vos études, mais également par vos proches, cela ne vous définit pas. Votre réussite est toujours possible dans un milieu professionnel, mais aussi du point de vue personnel. Et troisièmement et dernièrement, ce que je souhaite qu'on souligne, c'est l'importance de comprendre ce que le post-bac représente. Si Giovanna nous parlera en détail de ce qu'elle faisait en parallèle de sa licence et de son magistère, prenez des notes. Je vous invite à garder en tête que l'école ou l'université ne fait pas tout. Même si cette école se trouve à Grenoble, Paris ou Lyon et fait partie des 500 meilleures écoles universitaires du monde, ça ne fait pas tout. La qualité des enseignements est certes cruciale, mais l'engagement en parallèle l'est encore plus. Car si vous plongez dans le parcours des diplômés, rares sont ceux qui ont exactement la même destination. Ok, bon, on se retrouve dans la partie 2 très bientôt. Et n'oubliez pas de suivre le podcast, vous savez quoi faire. À plus!